Je fais parce que j'aime beaucoup ça. Bon, faut que je me calme. Et puis de porc AOP Quintoa élevé plein air. Alors Hidoki signifie carte sur table.
C'est ça.
C'est-à-dire
c'est ça, Hidoki, l'idée d'Hidoki il y a bientôt 30 ans était vraiment de montrer aux clients locaux et touristes et de gens de passage, de montrer aux clients ce qui se fait dans les fermes. Déjà, les précurseurs avaient mis en place des visites de fermes, de la vente directe dans les fermes, et avec pour objectif vraiment de la transparence. Donc derrière Hidoki, c'est ce côté transparence pour montrer vraiment que le producteur Hidoki, c'est le producteur qui élève son troupeau, transforme ses produits et vend ses produits directement.
Ouais. Dans votre beau Pays basque, les structures sont réduites. Hein. On est sur des petites exploitations entre 7 et 15 hectares. Est-ce que avant Hidoki, on pouvait quand même vivre sur des parcelles aussi petites ?
Mais ces années-là étaient les années où les paysans se lançaient vraiment dans une agriculture professionnelle, moins autarcique que les décennies précédentes. Et du coup, quand on avait envie et la volonté, le besoin de vivre au pays et pour le pays aussi, c'est dans ce cadre-là que l'association s'est créée, que les producteurs ont voulu s'organiser collectivement pour être plus forts et pour vraiment porter une voix unique de la production fermière, parce que c'est bien en revalorisant les produits de sa ferme que des petites unités comme ça peuvent être viables.
Ouais. Parce que sur une petite unité, on peut pas développer la production à outrance, et surtout si on fait le choix de la qualité et de la transparence, comme vous le voulez. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, sinon, de diversifier sa production ?
C'est ça, vu que dans les petits territoires dans lesquels nous sommes, c'est sûr qu'être compétitif, c'est même pas la peine d'y penser. Et c'est vrai que dès lors, il y a eu ce projet-là, précurseur hein, au départ, forcément, comme les bio d'il y a 30 ou 40 ans, les gens étaient pris pour des hurluberlus. Mais finalement, les producteurs qui ont lancé cette mouvance ont été précurseurs, ont voulu aussi pousser un coup de gueule sur la malbouffe et dire vraiment que toute la com qui peut se faire sur des produits à grande échelle, eh bien, le petit paysan qui est dans son coin, lui, c'est bien plus difficile. Du coup, collectivement, d'abord localement et puis petit à petit au niveau du département et même nationalement, l'idée, c'était vraiment de promouvoir cette agriculture de taille à taille humaine, de transformer ses produits pour vivre de ses productions, même dans des toutes petites fermes que l'administration oublie des fois.
Ouais. Vous prenez une commercialisation collective, cela signifie quoi ?
Cela signifie donc qu'on a créé en 1992 la marque Hidoki avec la création de cahiers des charges sur les différentes productions en Pays Basque. Donc ça va de du porc aux différents fromages, à la viande bovine, à la viande ovine, même pour aujourd'hui beaucoup de productions végétales aussi, des arbres fruitiers, des petits fruits, le miel. Donc il y a 14 cahiers des charges derrière Hidoki et on reprend un peu les mêmes principes d'une AOP où on a des cahiers des charges qui sont travaillés par les producteurs et qui sont, et c'est là tout l'intérêt, contrôlés par un organisme certificateur externe. Mmh. C'est des cahiers des charges qui restent globalement sur des races rustiques. Aujourd'hui, plus de pesticides, plus d'engrais chimiques, même si ces fermes-là n'en utilisaient pas déjà. Les fermes qui en utilisent peu peuvent aussi apprendre à s'en passer. Et du coup, on reste aussi toujours avec des produits de saison et des produits de qualité. Et c'est là l'intérêt de la vente directe, c'est qu'on a le retour du consommateur en permanence. Et quand on ne rompt pas ce lien-là, et bien on y gagne. Et le producteur et le consommateur gagnent en qualité et en qualité de vie aussi.
Ouais. Et il y a une bonne centaine de producteurs, comme je disais, qui suivent cette charte des producteurs fermiers du Pays Basque. Hidoki, on joue carte sur table et la transparence. Et puis c'est les 30 ans cette année de l'association des producteurs.
C'est ça, pour les 30 ans, on veut du coup faire une fête l'automne prochain entre producteurs. Le programme n'est pas encore défini, mais ici localement, l'idée c'est de réunir toute la production fermière et de montrer qu'aujourd'hui, la production fermière a un gros succès. Une installation sur deux se fait en production fermière en Pays Basque.
Bravo. Vous allez avoir les liens avec Hidoki, avec l'association des producteurs fermiers du Pays Basque à nos pages. On vous souhaite donc un bon anniversaire pour l'automne, Antione. Merci.
Un grand merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
En écoutant notre premier interlocuteur, je me suis dit, tiens, il y a un sujet de vacances à faire, c'est aller se balader dans le Pays Basque en mobylette pour découvrir les paysages. Je vais peut-être faire ça cet été. Avant de rejoindre notre second interlocuteur des Pyrénées-Atlantiques, j'ai une surprenante annonce à vous faire. Il ne s'agit pas véritablement d'un coup de pouce, mais d'une offre pas comme les autres. Alors, c'est effectivement la première fois qu'on reçoit ce type de courrier. Géraldine, notre correspondante, travaille pour une entreprise établie à Senon, près de Bordeaux. Elle est spécialisée dans la fourniture et la location de matériel médical, paramédical et orthopédique, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Je devrais dire non pas est spécialisée, était, parce que cette entreprise va changer d'activité et elle souhaite confier gratuitement, j'insiste, son stock de matériel et d'articles à une association. Alors, il s'agit de petits appareillages orthopédiques, bas de contention, orthèses diverses, prothèses mammaires, colliers cervicaux, chaussures thérapeutiques et j'en passe. Le lot est absolument neuf, mais pour l'instant, l'entreprise de Géraldine n'a trouvé aucune association intéressée, soit par manque de place, soit parce que celles-ci ne sont pas autorisées à accepter des dons en nature. Pour information, le lot à offrir est d'une valeur estimée à 50 000 euros. Donc si vous êtes intéressé ou vous connaissez dans votre entourage une association, un organisme, une ONG qui pourrait être intéressée, les ONG qui s'activent sur les terrains d'ici et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire et nous vous mettrons en relation avec notre correspondante. Vous nous écrivez à carnet, au pluriel, carnetcampagne@radiofrance.com. Émile Poncet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'études naturalistes au programme LIFE. On peut dire un mot du programme LIFE?
Bien sûr. Alors le programme LIFE, c'est un programme qui est porté par le Conservatoire d'espaces naturels, qui vise à essayer d'améliorer le statut de conservation en fait du défenseur des Pyrénées, donc un petit mammifère endémique des Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule ibérique. Et en fait, c'est un programme qui est financé à moitié par la Commission européenne et par 10 autres partenaires financiers, collectivités, partenaires privés des Pyrénées ou de la région.
Voilà. J'apprends.
L'objectif, c'est vraiment de travailler en faveur du dessement.
Oui, j'apprends tous les jours et donc merci, grâce à vous, je découvre le dessement qui est un animal qui a une particularité, son corps est trapu, rebondi, et il a une trompe, comme on l'appelle le rat trompette parfois.
C'est bien ça. Donc c'est un petit peu notre ornithorynque à nous dans les Pyrénées en fait, parce que ça ressemble à rien d'autre quoi. Enfin, on n'a pas d'élément de comparaison par rapport à un autre animal en fait. Donc il a une trompe, c'est la même trompe que l'éléphant en fait. C'est la coalescence entre le nez et la lèvre supérieure. Donc c'est vraiment le même organe. Il a des pattes palmées, il a une longue queue, un petit corps de souris. Donc c'est vraiment tout un mélange de plusieurs animaux qui en fait une espèce assez atypique et particulière.
Quel est son rôle dans l'écosystème?
Alors son rôle, je sais pas si on peut parler de rôle, mais il a une fonction déjà d'indicateur, vu que c'est une espèce qui se nourrit d'invertébrés en fait. Ces invertébrés-là ont besoin d'une eau de bonne qualité. Si on sait que le dessement est présent sur un milieu, ça veut dire que le cours d'eau est semble de bonne qualité en tout cas. Donc il a au moins ce rôle-là d'indicateur. Et ensuite, le fait que cette espèce-là soit protégée, ça nous permet de mettre en place des actions en faveur de son habitat, donc des cours d'eau pyrénéens. Et toutes les actions qu'on peut mettre en place, en fait, vont bénéficier vraiment à l'ensemble de ces espèces compagnes hein, qui occupent aussi les cours d'eau.
La menace qui pèse sur cette espèce est due à quoi? Une mauvaise gestion des rivières, à la pollution de l'eau?
Alors c'est compliqué en fait de mettre en avant un seul paramètre, hein. C'est vraiment toute une combinaison de menaces qui se sont développées au cours des dernières décennies en fait. Donc il y a effectivement tout ce qui est pollution de l'eau, tous les aménagements rivières, voilà, toutes ces choses accumulées les unes aux autres font que l'espèce a perdu, on considère au cours des 30-40 dernières années, quasiment 60% de son aire de répartition. À cause de cette addition de facteurs.
Vous venez d'entreprendre une tournée avec des soirées, ateliers en Haut-Béarn et en Soule, sous le nom de la caravane du dessement. D'ailleurs, c'est très réussi ce que vous avez fait. Ça vient de se terminer. On parle très souvent de sensibilisation. À un moment donné, il faudrait quand même passer à l'action. Quelles sont les actions potentielles pour protéger cette espèce?
Alors effectivement, dans le cadre du programme LIFE, on a une partie d'action qui vise à faire de la sensibilisation. C'est pas les seules actions qu'on mène, on a tout un volet d'actions concrètes, hein. Déjà des actions de connaissance pour essayer de mieux connaître l'espèce, et ensuite des actions effectivement concrètes. Donc là, on va essayer de faire de la restauration d'habitat sur certains secteurs. Et un des gros enjeux du programme Life, c'est de travailler en fait avec tous les acteurs des cours d'eau PNM pour essayer de mieux prendre en compte le DESMAN dans toutes les procédures environnementales. C'est-à-dire que tous les nouveaux projets d'aménagement qui doivent avoir lieu dans les cours d'eau devront prendre en compte au mieux le DESMAN pour éviter les impacts dont je parlais tout à l'heure.
Mmh. Il y a un recensement qui a été fait, Émile ?
Alors, les recensements, c'est très compliqué, en fait, puisque c'est une espèce qui est très compliquée à observer, oui. Qui est en partie nocturne, qui est très rapide, donc on a très peu d'observations directes. Donc, le seul moyen qu'on a, en fait, pour essayer de détecter l'espèce, c'est de rechercher ses indices de présence, donc essentiellement ses crottes. Et en fait, à partir de ça, on est en mesure d'estimer la taille d'une population. On arrive à évaluer l'évolution de sa zone de présence. Par contre, on ne sait pas dire le nombre d'individus qu'il peut y avoir de façon globale sur les Pyrénées.
Est-ce qu'on constate aussi une diminution de cette espèce en Russie avec le DESMAN de l'Oural, puisque c'est l'autre spécimen? Il y a deux espèces dans le monde, le DESMAN des Pyrénées et celui de l'Oural.
C'est bien ça. C'est pas du tout les mêmes espèces. Le DESMAN de Russie est 2 à 3 fois plus gros. C'est un animal qui fréquente pas du tout les mêmes habitats. Par contre, le point commun, effectivement, c'est que les deux espèces sont en voie de disparition. Donc on constate un petit peu la même régression pour ces deux espèces, sachant que le DESMAN de Russie, en plus, est également chassé pour sa viande, pour sa fourrure. Voilà,
ah oui.
C'est pas le cas du DESMAN des Pyrénées.
Il y a un plan d'action national qui a été lancé avec le programme européen LIFE, et puis il y a le travail aussi au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées pour enrayer cette régression et apporter des connaissances sur la biologie de l'espèce. Si ça vous intéresse, il y a des liens, vous allez trouver le lien avec DESMAN LIFE, DESMAN-LIFE.fr, et puis aussi le lien avec le Conservatoire d'espaces naturels. Merci Émile.
Merci à vous.
Demain, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques, on vous annoncera au Pays Basque la prochaine ouverture d'une maison d'édition musicale sous forme de société coopérative d'intérêt collectif à Iséac, ce sera son nom. Et puis côté Béarn, plus de 90 commerces en France adhèrent déjà à une société de distribution de produits en vrac pour atteindre le zéro déchet. Elle s'appelle Vracop. Justement, à propos de zéro déchet, je vous annonce avec une légère avance le Festival des déchets. C'est un rendez-vous unique dans son genre, c'est le premier du style à Brest du 3 au 8 juin, organisé par la métropole brestoise avec le Quartz, la scène nationale et centre de congrès, et afin de mobiliser la population de la ville à cet événement et autour des questions de gestion des déchets, la ville avait lancé un appel à participation des habitants. Il y a 25 propositions qui ont été retenues et projets qui ont été retenus. La restitution de ces projets sous forme de films et photos sera faite lors de ce festival avec des rencontres professionnelles, des tables rondes et aussi des spectacles du 3 au 8 juin. Donc ça se passe à Brest.